Je dis bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués en arrivant. J'ai intitulé mon message « Dieu avec nous ». Vous savez que c'est la traduction du mot « Emmanuel ». Et je vous propose de lire dans l'évangile de Matthieu, donc le premier des quatre évangiles, au chapitre 1. Verset 18. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste, et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. » Et ensuite, il cite le prophète Ésaïe au verset 23. « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À Noël, on fête une naissance. La naissance d'un bébé, un bébé de chair et d'os, comme tous les bébés du monde, comme tous les humains, mais un bébé, on l'a lu, conçu du Saint-Esprit et de ce fait totalement exempt du péché. Je vous propose une deuxième lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Jean, chapitre 3. Premier verset. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. Or il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint trouver Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il advenir? Jésus lui répondit, c'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela. Amen, amen, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais est la vie éternelle. Voilà, jusque-là. Alors, on va reprendre ce passage, un peu en détail. Donc, au verset 1, vous avez vu qu'il était question d'un pharisien. Vous savez que les pharisiens étaient une secte religieuse, juive, à l'époque de Jésus. Des gens extrêmement sérieux concernant la connaissance de la Torah, de la Bible de l'époque, hein, l'Ancien Testament, et qui s'efforçaient d'appliquer le plus possible dans leur vie et d'enseigner les préceptes de Dieu, la loi de Moïse. Et donc, ce Nicodème se présente à Jésus. Il est venu le voir de nuit, peut-être qu'il souhaitait pas trop être vu, on ne sait pas. Et il était manifestement interloqué par ce nouveau rabbin, ce nouveau rabbi, ce Jésus. Il l'avait probablement entendu enseigner et il voulait en savoir plus. Et donc, vous voyez au verset 2, la façon dont il s'adresse à Jésus, « Nous savons, c'est-à-dire nous les chefs, nous les maîtres enseignants du peuple juif, nous savons que tu es un maître venu de Dieu. » Dans l'original, il y a bien marqué un maître, un parmi d'autres. Celui qui enseigne, qui a l'autorité divine pour enseigner. Donc Nicodème avait probablement été étonné de son enseignement, mais dans ce récit, il va l'être encore plus. Mais en conscience, il ne peut douter que l'enseignement de Jésus ne vienne de Dieu, à cause des actes de puissance qui l'accompagnent. Il dit à Jésus, « Personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Le mot « signe » qui est utilisé là veut dire aussi bien « miracle » ou « acte de puissance ». Le signe, c'est la même chose. Et Jésus avait déjà produit de nombreux actes de puissance, des guérisons miraculeuses, voire même des résurrections. Les actes de puissance de Jésus attestaient l'autorité divine de son enseignement de façon indubitable, pour toute conscience droite. Et c'était le cas de Nicodème, qui était un homme droit, dont la conscience était travaillée par ce qu'il avait vu et entendu de Jésus, et qui discernait bien que, à l'évidence, Dieu était avec lui. À ce stade, il n'avait bien sûr pas saisi encore que, non seulement Dieu était avec lui, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais il était Dieu lui-même. Jésus était Dieu lui-même. Notons qu'en qualifiant Jésus de maître, didaskalos, hein, dans le terme grec qu'emploie la Bible, Nicodème range Jésus parmi les grands enseignants de son peuple, qui se sont assis dans la chair de Moïse pour enseigner le peuple à observer les commandements de Dieu. Alors, au verset 3, on va voir comment Jésus répond à cette affirmation de Nicodème, « Nous savons que tu es un maître venu de Dieu. » Que dit Jésus ? Il rebondit pas sur l'affirmation de Nicodème, mais il lui donne une affirmation, là, magistrale, on peut dire. Introduite par la fameuse formule « en vérité » ou « amen, amen hein, », ça veut dire, c'est la même chose, hein, ça veut dire « en vérité ». Et quand Jésus dit ça, ça veut dire « fais bien attention à ce que je vais te dire ». Si tu veux voir le règne de Dieu, ce à quoi aspire bien sûr tout juif pieux, il te manque quelque chose. Il te faut naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance est présentée par Jésus comme indispensable pour voir le règne de Dieu. C'est une condition incontournable. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un chemin parmi d'autres pour aller à Dieu. C'est le seul. Le verbe qu'utilise Jésus pour dire naître, bon, c'est le verbe genao, qui là est au passif, qui signifie littéralement être engendré, être enfanté. Il faut vraiment que tu sois enfanté une nouvelle fois. Et le mot qui veut dire de nouveau est un mot dont le champ sémantique est assez large, qui veut dire aussi, non seulement de nouveau, mais d'en haut. Un terme un peu ambigu, mais que Jésus utilise très certainement à dessein. Hein. Non seulement de nouveau, mais d'en haut. On peut donc dire que Jésus utilise là un vocabulaire qui a de quoi plonger Nicodème dans un abîme de points d'interrogation. Et au verset 4, Nicodème fait part de sa stupéfaction en prenant les paroles de Jésus au sens le plus littéral. Un homme de mon âge, moi qui suis vieux, peut-il entrer une nouvelle fois dans le ventre de sa mère et naître ? Si vraiment c'est ça la condition pour voir le règne de Dieu, alors là, j'y comprends plus rien. Alors, verset 5, Jésus va quand même préciser un peu son enseignement. Mais remarquez, toujours précédé de cette fameuse formule, « Amen, Amen, en vérité, en vérité. » C'est-à-dire, fais bien attention. Ce que je vais te dire, c'est important, c'est la vérité divine qui surpasse et complète toutes les vérités enseignées jusque-là du haut de la chair de Moïse. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors pour nous, ça peut paraître un peu mystérieux, d'eau et d'esprit. Pour Nicodème, c'est-à-dire un homme qui connaissait parfaitement l'Ancien Testament, la Torah, ces mots ne pouvaient pas évoquer des choses très précises. Et notamment, plusieurs textes qu'on trouve dans l'Ancien Testament, écrits par les prophètes, des grands prophètes de l'Ancien Testament, qui parlaient justement d'eau et d'esprit, qui liaient ces deux choses. Et notamment, parmi d'autres, un texte d'Ézéchiel, que je vous propose de regarder. Donc vous prenez le prophète Ézéchiel. Donc c'est dans l'Ancien Testament. C'est après Jérémie. Je vais y arriver, oui. Ézéchiel, voilà. Ézéchiel au chapitre 36. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 36. Au verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Voilà ce que dit Dieu à son peuple, qui était alors en captivité à Babylone. Au verset 25. « Je vous aspergerai d'une eau pure. » Tiens, on retrouve l'eau. « Et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. » Et le mot « souffle », aussi bien en hébreu qu'en grec, peut être traduit par « souffle » ou « esprit ». C'est la même chose. « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle ou mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. » Donc vous voyez ce passage, jusqu'au 29 peut-être, oui. « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. » Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Je vous sauverai de toutes vos impuretés, etc. Donc, cette mention de l'eau et de l'esprit a certainement fait tilt dans la tête de Nicodème. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez pur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. Je mettrai mon souffle en vous. Je ferai en sorte que vous suivez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et que vous les mettiez en pratique. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Alors on revient à l'évangile de Jean, notre chapitre 3. On arrive au verset 6. Jésus précise, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Donc Jésus précise encore que cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut, est une naissance spirituelle. Ce n'est pas une naissance physique. Une naissance spirituelle complètement différente, étrangère à la naissance physique. Et le verset 8 affirme la souveraineté totale et incontrôlable pour les êtres de chair que nous sommes de l'esprit. En effet, le vent ou l'esprit souffle où il veut. Tu l'entends, tu perçois bien quelque chose, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Donc une toute autre dimension manifestement. Et l'apôtre Paul en parle, par exemple, dans la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les humains, sait ce qui relève de l'humain, sinon l'Esprit de l'humain qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en associant le spirituel au spirituel. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée du Christ, dit Paul. Donc, Dieu nous ouvre des horizons totalement inaccessibles à notre esprit naturel, et cela pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et que nous a-t-il donné? Rien moins que son esprit, dont il annonce à ses disciples, juste avant de les quitter pour aller au ciel, qu'il serait abondamment répandu sur eux. Rappelez-vous, en acte 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples, juste avant de les quitter, juste avant l'ascension, « Vous recevrez une puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors revenons à Nicodème. On arrive au verset 9. Nicodème reprit, « Mais comment cela peut-il advenir ?» On sent que Nicodème a vraiment envie de connaître ça. Mais il se demande comment c'est possible. Alors, les versets suivants, Jésus fait un petit reproche quand même à Nicodème. Il lui répond, « C'est toi qui es maître en Israël, et tu ne sais pas cela. » Donc, il fait gentiment à Nicodème le reproche d'être bien ignorant pour un docteur d'Israël. Et notez le passage à la première personne du pluriel. De nouveau, il utilise la fameuse formule « Amen, amen, je te dis ». Fais attention. « Nous disons ce que nous savons. » Jésus passe à « nous ». Alors, je me suis demandé pourquoi il passait à la première personne du pluriel. Est-ce qu'il englobait ses disciples, l'enseignement qu'il avait avec ses disciples? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt le « nous » trinitaire. Le « nous » de Dieu, du Saint-Esprit et du Fils. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous, vous les Juifs, ne recevez pas notre témoignage, les Juifs et tous les hommes. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé, là il revient à jeu. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Alors, ensuite, on a ces versets 14 à 17 qui paraissent un peu étonnants. Pourquoi Jésus parle de ça? Il continue, donc, il vient de dire que personne n'est monté au ciel sinon le Fils de l'homme, et personne n'est descendu du ciel sinon le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Et il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ça, Nicodème connaissait bien l'histoire. Jésus faisait allusion à un épisode de la vie du peuple juif qu'on peut lire dans le livre des Nombres, au chapitre 21, livre des Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4. Les Juifs ont été délivrés de l'esclavage égyptien. Ils sont en route vers le pays promis, vers Canaan, mais le trajet ne se passe pas très très bien. Ils ont de multiples occasions de rouspéter contre Dieu et contre Moïse. Au verset 4, donc, Nombre 21, verset 4, « Ils partirent de hors la montagne par le chemin de la mer des Joncs pour contourner Édom. En route, le peuple perdit patience. » Et parla contre Dieu et contre Moïse. Donc le peuple parle contre son leader, Moïse, et à travers Moïse, contre Dieu. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous avons pris en horreur ce pain méprisable. Alors le pain méprisable en question, c'était la manne. Cette manne, ce cadeau de Dieu, destinée à nourrir son peuple, dont il est dit, quand le premier jour ils en ont goûté, qu'elle avait le goût d'un gâteau au miel. Vous voyez, alors, le gâteau au miel, là, il est devenu ce pain méprisable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. » Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le verra restera en vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Si quelqu'un était mordu par un serpent, et regardez le serpent de bronze, il restait en vie. C'est donc à cet épisode de la vie du peuple juif que Jésus fait allusion là, dans son discours à Nicodème. Moïse avait, sur l'ordre de Dieu, fabriqué un serpent en airain qu'il avait placé sur une haute perche afin qu'il puisse être vu de tout le peuple. Et toute personne qui venait être mordue par l'un de ces serpents, image de la morsure mortelle du péché, et qui regardait au serpent d'airain élevé entre terre et ciel sur cette perche, était instantanément guéri. L'action mortelle du venin était instantanément stoppée et annulée. Et Jésus explique à Nicodème qu'il faut que de même le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, Jésus, il faut que de même le Fils de l'homme, celui qui est descendu du ciel, soit ainsi élevé entre terre et ciel, afin que quiconque regarde à lui avec la foi d'être sauvé, reçoive la vie éternelle. Et le verset 16 donne la raison de cet acte de Dieu. La raison, c'est « Il a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Je ne sais pas ce que Nicodème a pu comprendre à ce moment-là de cette parole. On voit que par la suite, il essaiera de prendre la défense de Jésus lors d'une réunion du Sanhédrin juif. Et surtout qu'il se joindra à Joseph d'Arimathée après la crucifixion de Jésus, après sa mort, pour prendre soin du corps de Jésus, pour l'embaumer selon la coutume juive. On trouve ça dans le chapitre 19 de l'évangile de Jean. Jésus, le Fils de Dieu de toute éternité, est venu prendre chair d'une femme sur cette terre de péché, il y a 2000 ans. Il s'est réduit à naître comme un simple nouveau-né dans une obscure étable de Palestine, à Bethléem, pour nous permettre à notre tour de naître, non pas d'entrer à nouveau dans le sein de notre mère, comme l'avait imaginé un instant Nicodème, mais d'une naissance spirituelle, une naissance d'en haut, une naissance d'eau et d'esprit, L'apôtre Paul affirmera cette glorieuse vérité dans sa lettre à son disciple Tite. On peut regarder Tite au chapitre 3. Tite chapitre 3 au verset 3. Paul dit, nous aussi, c'est-à-dire nous les apôtres de Jésus, nous aussi en effet nous étions autrefois des gens super, intelligents, non, stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. C'est étonnant dans la bouche de Paul, qui était lui-même un pharisien, un homme extrêmement zélé pour la loi de Dieu, eh bien, il reconnaît en fait quel était l'état réel de son cœur. Voilà, il dit comment il était et comment ils étaient tous comme ça, et tous les hommes sont comme ça. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés. Par le bain de la nouvelle naissance, donc on retrouve ce que Jésus a enseigné, par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il l'a répandu sur nous largement par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Et il affirme à Tite, cette parole est certaine, et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement. Cette parole est certaine et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement. Cette parole, c'est qu'il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Donc, cet enseignement, Paul reprend cet enseignement que Jésus avait donné à Nicodème. Cette parole est certaine. Rappelez-vous comment Jésus annonce et formule cette affirmation. Cette parole certaine, amen, amen, en vérité, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, chers amis, peut-être y a-t-il dans cette salle des personnes qui ne sont pas encore passées par cette nouvelle naissance. Jésus affirme que c'est une nécessité absolue si vous désirez voir le règne de Dieu. Et comment cela peut-il se faire? Simplement en regardant avec foi à Jésus cloué sur une croix pour vos péchés et ceux de tous les hommes. Les Israélites qui regardaient vers le serpent d'Airain après avoir été mordus par un serpent ne se posaient pas la question de savoir si ce simple regard allait les sauver. Ils contemplaient le serpent d'Airain en y mettant tout leur espoir devant l'imminence de la mort qui les guettait. Il en est de même pour vous aujourd'hui. Vous êtes mortellement mordus, spirituellement morts à cause de vos péchés. Mais la guérison est là. Elle est à votre portée, instantanée et pour l'éternité. Vous allez passer de la mort à la vie et découvrir les glorieuses promesses de Dieu pour cette vie et pour la vie future. Et la puissance de l'Esprit transformera votre existence. Prions. Seigneur, nous ne pourrons jamais te dire suffisamment merci d'être venu sur cette terre, sur une terre de péché, toi le Saint, toi le Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, tu as pris chair d'une femme. Tu as vécu sur cette terre, tu as enseigné, tu as fait connaître la parole de Dieu et surtout tu as apporté la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que on pouvait tout recommencer. On pouvait repartir à zéro par une nouvelle naissance. Une naissance spirituelle qui peut faire de nous tes enfants et cela pour l'éternité. Seigneur, on te prie que ton esprit et ta parole soient puissants pour convaincre toute âme qui ne se serait pas encore tournée vers toi, toute âme qui n'aurait pas encore regardé vers ta croix pour être délivré définitivement de ses péchés et pour connaître cette vie glorieuse des enfants de Dieu. Amen.